Avant de commencer, si vous voulez bien, on va juste prier. C'est important. Père éternel, nous voulons te remercier pour l'ensemble de ce culte que nous pouvons vivre avec toi, ce moment que nous pouvons avoir tout particulièrement avec toi ensemble. Notre prière est que tu donnes un cœur ouvert et que tu nous permettes de comprendre ta parole. Elle est si accessible et si des fois difficile à comprendre, que ton esprit qui est parmi nous, qui est en chacun de nous, puisse ouvrir notre intelligence afin que nous puissions apprendre ce que c'est de marcher et d'avancer avec toi, aller toujours plus loin. Nous disposons ce matin nos cœurs devant toi. Ouais, révèle-toi à nous, c'est notre prière. Amen. Il y a quelques années maintenant, parce que ça commence à dater, je ne sais pas si vous en souvenez du tube « Si on devait mourir demain » de Natacha Saint-Pierre et Pascal Obispo. Bon, on aime ou on n'aime pas, moi j'aime pas, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant dans cette chanson, une question assez pertinente. Si on devait mourir demain, qu'est-ce qu'on ferait de plus, qu'est-ce qu'on ferait de moins? Alors, de but en blanc, c'est un peu difficile à dire. Mais quand on prend le temps d'y réfléchir, on trouve... Enfin, c'est important d'y réfléchir quand même, c'est ça plutôt que je veux dire. Et la chanson nous montrait justement qu'il y avait plusieurs réponses qui étaient possibles. Certains se ressentaient une espèce de pulsion de vie pour vivre sans plus attendre, vivre les rêves qui n'ont pas été accomplis. Et d'autres, au contraire, ils se morfondent enfermés chez eux dans le noir. Et c'est un peu la question que j'aimerais qu'on se pose ce matin. Comment est-ce que je réagirais, moi, personnellement, si je devais mourir demain? Alors, un peu étonnant comme thématique, mais je pense que c'est important qu'on puisse aussi se poser cette question et aborder ce texte d'Ésaïe 38, où justement on a là le témoignage d'un homme qui est confronté à une situation dramatique. Face à un diagnostic sans appel, quelle serait notre réaction? Alors on va ouvrir notre Bible, si vous ne l'avez pas déjà fait, sur Ésaïe 38. On va lire tout le chapitre, mais on va faire une lecture en trois temps, en fonction des partages, enfin, en fonction des paragraphes. Enfin, vous allez voir. Je suis un peu stressé, excusez-moi, c'est compliqué pour moi. Alors, Ésaïe 38, au verset 1. « À cette époque, Ézéchias tomba malade. Il était prêt de mourir, et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se rendit à son chevet. Il lui dit, « Voici ce que l'Éternel déclare. Prends tes dispositions, car tu vas mourir, tu ne te rétabliras pas. » Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur, et pria l'Éternel en ces termes, « De grâce, Éternel, tiens compte de ce que je me suis conduit avec fidélité, d'un cœur sans partage, et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. » Ézéchias versa d'abondantes larmes. Alors l'Éternel s'adressa à Ésaïe en disant, « Va dire à Ézéchias, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais prolonger ta vie de 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville. Voici le signe que l'Éternel t'accorde pour te confirmer qu'il accomplira cette promesse qu'il t'a donnée. Il va faire reculer de 10 degrés l'ombre qui était déjà descendue sur le cadran solaire d'Ahaz. Effectivement, le soleil recula de 10 degrés sur le cadran solaire. Alors voici le poème écrit par Ézéchias, roi de Juda, à l'occasion de sa maladie dont il avait été guéri. Je me disais, dans ma pleine vigueur, il faut que je m'en aille, pour passer par les portes de la mort, privé du reste de mes ans. Je me disais, je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma vie m'est arrachée et emportée loin de moi comme une tente de berger. La toile de ma vie a été enroulée comme celle d'un tisserand. La chaîne en est coupée. Entre le matin et le soir, tu m'auras achevé. Jusqu'au matin, je me suis contenu comme ferait le lion. Il brisait tous mes os. Pendant le jour, avant la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle ou une grue. Ainsi que la colombe, je gémissais. Mes yeux se sont lassés à regarder en haut. Éternel, je suis dans l'angoisse. Viens, secours-moi. On va s'arrêter là pour l'instant et regarder cette première partie que j'ai appelée l'expérience de la souffrance. Les propos qu'on a lus soulignent les sentiments d'un homme qui justement arrive au terme de sa vie. Alors il faut savoir que quand ça se passe, Ézéchias n'a que 37-38 ans. Et il est roi depuis une quinzaine d'années à peu près. Mais voilà, il fait face à une maladie incurable, mais qu'il contraint de tout abandonner. Il est, on pourrait dire, littéralement au bout du rouleau. Le verset 12 et les images qui sont employées illustrent parfaitement la brutalité de la situation qui s'impose à lui. Ma vie m'est arrachée comme une tente de berger. La toile de ma vie a été roulée. Prenez un rouleau, enfin un tissu que vous roulez rapidement et voilà sa vie, elle est roulée aussi rapidement que ça. Il est au bout du rouleau. Il n'a pas d'autre choix que de subir cette situation, de la laisser contraindre sa vie. Il est impuissant, on le voit là-dedans. Il voit ses rêves et son avenir être compromis. Sa souffrance est intense. C'est un homme qui a mal, on le voit. Il est broyé par la douleur et par la peur aussi. Il est touché dans son intégrité et son identité. Et devant cette situation, face à la mort, il expérimente tout un panel d'émotions qui, quelque part, nous montrent vraiment le mal-être qu'il a à l'intérieur de lui. On voit de la tristesse, on voit des regrets, on voit des doutes, de l'angoisse, etc., etc. On pourrait dire que c'est vraiment une tempête qui fait rage dans son cœur. Il se sait condamné par cette maladie qui l'empêche de jouir pleinement de sa vie. Véritable expérience désagréable, la maladie nous pousse dans nos retranchements en nous privant souvent de quelque chose. Elle nous arrache notre bien-être, notre santé, nos projets, comme notre homme dans ce texte. Et elle nous impose des changements auxquels on n'est pas préparé. Même si on essaye de répondre à cette question, si je devais tomber malade, comment je réagirais ? On n'est pas en capacité de réfléchir suffisamment pour savoir comment on réagirait. On n'est pas préparé à de tels changements. Le texte nous montre un homme qui est vulnérable. Et c'est un peu dans l'air du temps, mais ce qu'on a réappris avec le Covid, c'est qu'on est tout autant, nous aussi, vulnérables. La pandémie actuelle, qui suscite de multiples interrogations, elle est venue, elle a compromis notre confort de vie. Les mesures sanitaires qui sont si drastiques, ça se durcit encore plus, on l'a vu cette semaine. C'est parce qu'on se sait vulnérable et surtout qu'on est impuissant pour enrayer ce phénomène. Et quelque part, la propagation du virus qui se répand comme une traînée de poudre, elle nous rappelle qu'on n'a aucune maîtrise sur nos vies. Un peu comme le roi Ézéchias dans notre texte. L'idée même de perdre le contrôle sur nos vies suffit pour nous inspirer de la peur, de l'angoisse, du doute. Si pour certains cela vire à l'obsession, la recherche quand même d'une vie plus ou moins parfaite, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire sans imprévu, sans dérapage, sans aucun souci, c'est un petit peu ancré en chacun. Je pense que personne ici n'aspire un jour à être confronté à un cancer ou à une maladie dégénérative qui pourrait occasionner de terribles souffrances physiques, mais aussi morales. C'est ancré en nous. On aspire au mieux, au meilleur, et toujours à échapper à ce genre de situation. Mais des fois, la réalité nous rattrape. Et la maladie, qu'elle soit physique ou mentale, n'est pas la seule cause d'un tel chamboulement dans nos vies. C'est pas la seule raison qui pourrait nous amener à être au bout du rouleau. Personnellement, moi, je côtoie des hommes et des femmes, des jeunes et des personnes âgées qui sont épuisés, lassés, meurtris, surtout par des traumatismes qui leur donnent envie de mourir, et dont les souffrances intérieures sont semblables à celles d'un lion en furie qui se déchaîne. Comme dit Ézéchias, c'est intéressant, au verset 13, « Comme ferait le lion, il brisait tous mes os. » On perçoit la douleur et la violence. Des personnes qui, comme Ézéchias, sont en bout de course, dans une impasse, essayant par X moyens de s'en sortir. Et peut-être qu'on a déjà aussi soi-même vécu ce genre de situation. Mais en vain, quand l'imprévu fait irruption et que l'angoisse nous saisit, il nous faut bien reconnaître qu'on ne sait pas toujours comment faire face. Et ça, même si on a des années de marche avec Dieu. L'expérience de la souffrance soulève tout un tas de questions auxquelles on ne parvient pas à répondre, du moins pas toujours. Et là, dans notre texte, le roi Ézéchias, il a ce trop-plein, on sent qu'il déborde. Et qu'est-ce qu'il fait? Il crie à Dieu sa détresse. On pourrait dire qu'il remet son sort entre ses mains. On le voit au verset 14, « Je poussais des cris comme une hirondelle ou une grue. » Ainsi que la colombe, je gémissais, mes yeux se sont lassés à regarder en haut. Éternel, je suis dans l'angoisse, viens secours-moi, viens secours-moi. Il perçoit en Dieu son sauveur, et ça c'est quelque chose qui est pour nous un exemple à suivre. Car nous devons bien le reconnaître, on n'est pas toujours spontané avec Dieu dans nos temps d'épreuve, et ce à tort. Du moins, je parle pour moi. Bien souvent, on attend d'être submergé, saturé, être au bout du bout par toutes ces émotions pour lâcher prise et implorer son secours. Alors que Dieu nous attend à chaque étape. Dans ce poème, on perçoit chez Ézéchias une incompréhension à l'égard de Dieu. Dieu serait-il le principal responsable de son malheur ? Quelque part, son vécu pose des questions que peut-être on n'ose pas poser nous-mêmes en se disant « Non, j'ai pas le droit de dire ça, j'ai pas le droit de penser ça. » Mais si, pensons-le, réfléchissons dessus. Dieu serait-il le principal responsable de son malheur? Comment concevoir l'idée d'un Dieu bon et aimant et celle d'un Dieu qui prive, qui empêche, qui refuse ce bien-être et cette bonne santé? C'est des questions importantes. Bon, moi j'apporte une courte réflexion dessus, mais je pense qu'il est important que chacun puisse oser se les poser dans ces moments-là et oser les poser à Dieu afin de grandir. On s'imagine facilement la controverse qu'il y a dans le cœur de notre homme, entre d'une part sa foi, ce qu'il sait de Dieu. Quand vous lisez le livre des rois, on voit que c'est un homme quand même de foi, un bel exemple dans sa royauté. Donc il y a cette controverse dans son cœur entre sa foi et les doutes et les ressentis qui émergent sur son lit de mort. Difficile dans cette lutte intérieure que je pense que l'on connaît tous, de savoir ce qu'on a le droit de réellement dire à Dieu. Mais malgré ces interrogations, Ézéchias, qu'est-ce qu'il fait? Il compte sur son puissant soutien. Un bel exemple. Au fond, ce texte nous permet de découvrir, si on ne l'a pas pris conscience, ou de redécouvrir, si on l'a oublié, ce qu'est le principe de la souveraineté de Dieu dans un monde où finalement, on n'a aucun contrôle parfait, on est limité, on n'a qu'une connaissance partielle. Et pourquoi il est important qu'on le réalise? Tout simplement parce que l'expérience de la douleur, peu importe son origine, que ce soit aussi intense que notre homme avec une maladie, ou pour une séparation, un divorce, ou quelque chose de ce genre, l'expérience de la souffrance modifie bien souvent notre regard sur Dieu. La souveraineté de Dieu constitue une réalité qui est fascinante et qui n'a rien à voir avec un certain fatalisme, selon lequel la destinée de chacun serait fixée à l'avance, sans que le cours des événements ne puisse être modifié. Dieu est souverain parce qu'il est le créateur de toutes choses. Autrement dit, il n'y a aucune autorité, aucune entité dans tout l'univers qui ne le surpasse ou ne l'égale. Il est tout simplement absolu. Dieu est absolu. Il n'existe chez lui aucune limite à sa puissance, à sa sagesse, à sa sainteté, à son amour ou encore à sa justice, et pas même celle auquel nous sommes personnellement confrontés. Dans sa perfection, Dieu n'est soumis à aucune limite. Cela signifie qu'il n'y a aucune situation imprévisible qui puisse le mettre en difficulté ou le tenir en échec. La maladie d'Ézéchias, aussi incurable qu'elle puisse être, elle ne constitue en rien un obstacle pour Dieu. Et ça, c'est important qu'on le réalise et qu'on l'accepte. Face à ce que nous vivons, nous aujourd'hui, que ce soit à notre échelle personnelle, notre vécu, ou à l'échelle mondiale avec cette pandémie, il n'y a aucune situation qui puisse restreindre Dieu dans sa puissance. Rien qui puisse l'empêcher d'agir. Aucune souffrance qui puisse l'affaiblir. Rien qui puisse compromettre son entière souveraineté. Face à nos détresses, Dieu n'est pas impuissant. Au contraire, il peut toutes choses. Notre Dieu est tout-puissant. Et c'est ce qui nous est donné de voir quand on parcourt la Bible, quand Dieu commande aux nations et aux empires, quand il manifeste sa puissance dans la création, quand il domine les esprits, les morts ou les maladies, comme il nous est permis de voir dans les évangiles, ou encore quand il triomphe sur la croix à Golgotha. Étant tout-puissant, Dieu peut enrayer le cours des événements à sa guise. Il reste libre d'agir comme il le souhaite, et ce, quand bien même cela ne correspond pas à nos attentes. Rien ne contraint Dieu d'intervenir, pas même la piété de notre homme dans ce texte. On le voit au verset 2, au verset 3, dans sa prière, voilà ce que dit Ézéchias: « Tiens compte de ce que je me suis conduit avec fidélité, d'un cœur sans partage, et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. » Et à l'époque, ce n'était pas courant, au niveau des rois en tout cas. Si Dieu est pleinement souverain, il n'en reste pas moins qu'il est parfois difficile à comprendre dans ce qu'il fait. L'injustice que nous éprouvons et qui émane de nos souffrances révèle bien souvent notre incompréhension à son égard. Mais pourquoi moi ? Pourquoi Ézéchias, lui qui est fidèle, alors qu'on l'a dit qu'il n'y a pas énormément de rois qui tiennent la route, se voit contraint, s'est vu contraint du moins, de faire face à la mort? Pourquoi tant d'autres personnes? Pourquoi dans notre entourage? Pourquoi mon père? Pourquoi ma mère? Pourquoi mes proches? C'est pourquoi qui reste sans réponse. On les a tous connus. Admettre que Dieu soit souverain ne signifie pas avoir une compréhension nette et précise de sa volonté. Ça ne signifie pas non plus qu'il soit la cause directe ou la seule cause de tout ce qui se produit. Mais c'est accepter qu'il soit le Seigneur de tout ce qui se produit, que rien ne lui échappe et qu'il préside à ce que nous vivons. Et c'est peut-être là la nuance qui permet à Ézéchias de ne pas considérer Dieu comme le responsable de son malheur, mais de le voir comme son Sauveur et son Seigneur. Dieu préside chacune de nos détresses avec une entière autorité, une entière puissance que nous ne parvenons pas toujours à comprendre. C'est vrai, reconnaissons-le. La souveraineté de Dieu ne peut être parfaitement comprise tout simplement parce que, on l'a dit, lui est absolu et que nous, en tant que créatures, nous ne le sommes pas. Et j'aime beaucoup cette illustration qu'un auteur chrétien emploie pour parler de cette incompréhension qu'on a si souvent à l'égard de Dieu. Il dit ceci: imaginez un arbre immense. Vous pouvez entrer en contact avec lui, toucher de près, toucher son écorce, sentir si c'est un pin ou le reste, je ne connais pas le reste, mais vous ne pouvez pas l'englober et vous ne pouvez pas le contenir entièrement. Ce que notre corps ne peut faire avec un gros arbre, on n'arrive pas. Notre esprit ne peut le faire avec Dieu. Le fini ne peut contenir l'infini. Si nous ne parvenons pas toujours à le comprendre, sa souveraineté nous rappelle pourtant une vérité que nous devons mémoriser dans ces temps de détresse. Dieu est immuable dans le temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a aucun changement possible en lui. Et son immuabilité constitue un précieux encouragement. Parce que s'il est libre d'agir comme il veut, comme on l'a vu, ce qu'il est ne varie pas. Ses dispositions intérieures restent les mêmes. Ses promesses restent actuelles et demeurent actuelles. Dieu est constant dans l'expression de son amour, dans l'exercice de sa justice, dans la manifestation de sa puissance. Ainsi, notre réconfort dans la détresse, elle puise sa source dans l'essence même de son être, dès l'instant où on apprend à le voir tel qu'il est vraiment. Alors, osons, mettons des mots sur nos maux, gémissons, extériorisons notre douleur en épanchant nos cœurs devant Dieu, en les versant devant Dieu, comme l'a fait Ézéchias. Nous avons le droit d'avoir mal. Mais quelque part, ne laissons pas ce mal occulter ce qu'on a appris de Dieu. Et c'est ce qui nous amène à notre point suivant, l'expérience de la grâce. Et on va lire les versets et la suite du poème, de ce beau poème, les versets 15 à 17. Au verset 15, il est dit « Que puis-je dire ? Il m'a parlé et c'est lui qui agit. Je marcherai donc humblement tout le temps de ma vie à cause de mon affliction. Seigneur, c'est grâce à ta parole qu'on jouit de la vie, c'est grâce à elle que je respire encore. Tu me rétabliras, tu me feras revivre. Ma profonde affliction s'est transformée en paix, car toi, dans ton amour, tu m'as arraché à la tombe et tu as rejeté toutes mes fautes derrière toi. » Et la version Darby le traduit comme ça, « Mais toi, ce verset 17 que j'aime beaucoup, « Mais toi, tu as aimé mon âme, la retirant de la fosse de destruction, car tu as jeté tous mes péchés derrière ton dos. Tu as aimé mon âme. » Dans la suite du poème, donc dans ces versets qu'on a pu lire, et les prochains, Ézéchias est soulagé. On découvre les sentiments d'un homme qui a échappé au pire. Vous savez, cette espèce de soulagement, là, quand on a... Ça fait du bien, c'est pas pour nous. L'angoisse laisse alors la place au soulagement. Dieu met un terme à sa souffrance en accédant à sa demande. Et ça le laisse sans voix. Et ça nous laisse sans voix. Moi, ça me laisse sans voix tout le temps que j'ai pu préparer ce message. L'intervention miraculeuse que nous découvrons ici et que bien souvent nous espérons vivre dans nos quotidiens, soyons honnêtes, on espère vivre ça, et des fois ce n'est pas le cas. Cela nous rappelle quoi ? Cela nous rappelle que la liberté d'agir que Dieu a en tant que souverain ne va jamais à l'encontre de son amour. Dans tout ce qu'il fait et tout ce qu'il affirme, Dieu révèle sa nature aimante, y compris dans les situations les plus critiques que nous traversons. L'amour de Dieu est une certitude sur laquelle nous pouvons nous appuyer dans la détresse. Elle est totalement différente de la conception que nous en faisons. Mais son amour est intrinsèque à sa nature propre, c'est-à-dire qu'elle est une caractéristique parmi tant d'autres qui le définissent. Autrement dit, Dieu est défini et manifeste son amour à notre égard, en fonction de qui il est, de ce qu'il est. S'il est tout-puissant, alors son amour l'est aussi, sans aucune restriction, sans aucune limite. S'il est fiable, juste et intemporel, alors son amour l'est aussi. Dieu n'est donc pas capricieux dans ses choix, ni dans sa liberté d'agir, comme le pourrait être un monarque autoritaire. Sinon, il se contredirait lui-même, et cela est impossible. En mettant un terme à sa souffrance, Dieu accorde à Ézéchias une grâce toute particulière. La grâce de Dieu n'est autre que la parfaite démonstration de son amour. C'est une faveur imméritée, Ce n'est pas parce qu'il a mis en évidence son engagement qu'il a été guéri. C'est une faveur qui était méritée, ici, donc, qui se concrétise par cette guérison, et qui est quelque part la marque de fabrique, de son amour au travers de laquelle il se glorifie. La grâce de Dieu est la marque de fabrique de son amour par laquelle il se glorifie. Dieu partage avec lui toute sa compassion en exaucant sa prière. C'est pourquoi la grâce de Dieu à notre égard n'exclut pas l'idée que nous puissions continuer de souffrir. Dieu ne nous aime pas moins s'il n'agit pas aussi puissamment que dans ce texte. Il se préoccupe de chaque personne avec le même intérêt et la même sensibilité qu'un père a pour ses enfants. C'est pourquoi, lorsque nous faisons face à la détresse, nous ne devons pas considérer son silence devant nos attentes comme une indifférence de sa part. Tu ne te soucies pas de moi. Tu m'as abandonné. Car dès lors, nous laisserions au doute le droit de s'attaquer à cette vérité qu'affirme Ézéchias ici. Mais toi, tu as aimé mon âme. Et c'est une vérité à laquelle nous devons nous raccrocher constamment. Au final, le plus grand danger dans cette situation, ça ne vient pas du fait qu'on soit abattu par la douleur. On a le droit d'être abattu. Ça ne vient pas du fait qu'on soit envahi par le doute. Mais le plus grand danger dans l'histoire vient du fait que nous mettons Dieu de côté dans nos détresses. Nous l'excluons de notre détresse. Et ce, à partir du moment où nous remettons en question son amour à notre égard. Nous devenons suspicieux, méfiants, et nous perdons cette confiance que nous avons en lui. Nous ne devons pas l'écarter, mais choisir de les vivre avec lui. Et son immuabilité que nous avons vue tout à l'heure nous rappelle que Dieu demeure fidèle dans sa relation aux hommes. Dieu reste vrai en son être, ce qui fait que c'est une personne digne de confiance, et ce, à toute épreuve. Il constitue un secours et un refuge fiable que nulle part ailleurs en ce monde nous pouvons le trouver. C'est dans l'expression de son amour à notre égard que Dieu révèle pleinement sa souveraineté. L'expérience de la souffrance et de la grâce laisse une trace dans la vie d'Ézéchias qui l'influence. Elle l'engage dans un avenir pour lequel il veut dépendre entièrement de son Dieu. Et quelque part, les souffrances que nous vivons sont porteuses de leçons qu'il nous faut apprendre. Admettre que Dieu soit souverain implique l'idée qu'il gère nos vies avec amour, en nous donnant de grandir au travers d'épreuves parfois coûteuses. Je la refais. Admettre que Dieu soit souverain implique l'idée qu'il gère nos vies avec amour, en nous donnant de grandir au travers d'épreuves parfois coûteuses. La souffrance est une école dans laquelle nous apprenons toujours plus à être confiants et dépendants de Dieu. Et ça nous amène sur notre dernier point, conserver le souvenir de l'expérience passée. C'est ce que nous voyons dans les versets 18 à 22. On reprend le texte. Verset 18, « Personne ne te loue dans le séjour des morts, et ce n'est pas la mort qui te célébrera. Ceux qui sont descendus dans la tombe ne comptent plus sur ta fidélité. Ce sont les vivants, seuls, qui peuvent te louer comme moi aujourd'hui. Le Père enseignera au Fils combien tu es fidèle. L'Éternel était là pour venir me sauver. Nous ferons résonner nos instruments tous les jours de la vie dans le temple de l'Éternel. » Ésaïe avait ordonné qu'on apporte une masse de figues et qu'on la frotte sur l'ulcère du roi qui se rétablira. Et Ézéchias avait dit, « À quel signe saurais-je que je pourrais encore me rendre au temple de l'Éternel ?» Touché par ce qu'il vient de vivre, Ézéchias conserve précieusement ce souvenir en l'immortalisant de deux manières. Premièrement, il laisse une trace écrite avec son poème. Et je pense que c'est important qu'on puisse prendre exemple sur lui. Et deuxièmement, il en fait un sujet de louange, qu'il répétera chaque jour dans le temple de l'Éternel. Et son attitude, quand il immortalise ce souvenir, est un exemple à suivre. Si on ne prend pas l'habitude de graver ces moments que nous venons de vivre avec Dieu, nous prenons le risque de les voir s'effacer avec le temps. Bien plus que de vagues réminiscences, nos souvenirs nous permettent d'entretenir notre reconnaissance. On s'imagine que pour Ézéchias, chaque jour devait avoir un goût particulier. Chaque nouvelle journée était le doux rappel que Dieu l'avait délivré sur son lit de mort. De fait, se nourrir, se rappeler, se souvenir, nourrit notre adoration quand bien souvent nous sommes à court d'inspiration. Se souvenir, c'est regarder à nouveau la gloire de Dieu au travers des expériences passées. Conserver nos souvenirs nous permet également d'entretenir notre foi. Au travers de sa maladie, Ézéchias a touché de près. Il a palpé cette puissance, la puissance de Dieu. Il a compris ce que ça signifie que Dieu soit souverain. C'est peut-être quelque chose qu'on a entendu, que l'on accepte, que l'on reconnaît comme vrai, mais qu'on n'a peut-être pas soi-même vécu encore. Et quelque part, nous rappeler l'œuvre et la nature de Dieu au travers de nos expériences ou de ce que la parole de Dieu souligne, ça fortifie et ça stimule notre foi. Néanmoins, si ce regard en arrière nous est bénéfique, notre relation avec Dieu ne doit pas reposer exclusivement sur des expériences passées. Sinon, ça signifierait que nous ne vivons plus rien avec Dieu. Entretenir nos souvenirs doit être le moteur qui nous pousse à vouloir vivre toujours plus avec Dieu en mettant en avant notre foi. C'est en fixant nos regards sur sa personne que nous sommes pleinement encouragés à mettre notre confiance en lui. Conserver nos souvenirs nous permet aussi d'entretenir la foi de notre prochain. Bien souvent, la détresse, peu importe son origine, elle nous isole. On l'a dit, elle nous appauvrit. Et quoi de plus réconfortant que d'être compris dans sa souffrance par un autre qui l'a soi-même vécu. Si Ézéchias était parmi nous aujourd'hui, je pense qu'il serait un grand réconfort pour tous ceux qui traversent l'ombre de la mort face à la maladie. Il aurait été un soutien particulier. Se souvenir de nos expériences peut d'une certaine manière être utile à quelqu'un parmi nous ou autour de nous. Dans sa grâce, Dieu nous a donné cette communion fraternelle pour rire ensemble, mais aussi pour pleurer ensemble. Et si le mal que nous avions pu vivre ou pouvons vivre aujourd'hui encore pouvait servir à faire du bien à quelqu'un qui souffre autour de moi? Alors, loin des grandes généralités spirituelles qu'on peut entendre, quand nous sommes au plus mal, comme « fais confiance à Dieu, ça ira », ça on l'entend, mais ça ne sert pas. On aspire tous à être entendus et compris par quelqu'un qui sait ce que ça fait comme douleur. Conserver ses souvenirs, c'est laisser Dieu finalement disposer de nous pour édifier son Église, pour prendre soin de l'autre. Et enfin, une dernière piste pour conserver nos souvenirs, cela permet d'entretenir notre témoignage. Chaque expérience heureuse ou douloureuse vécue est une passerelle qui nous est donnée pour partager notre foi à nos contemporains. Encore une fois, si Ézéchias était là, personnellement, moi je le laisserais parler si on faisait une soirée d'évangélisation parce qu'il aurait un témoignage particulièrement touchant. Son témoignage est crédible, sans faille. L'Éternel était là pour me sauver, c'est ce qu'il affirme, avec un aplomb, une assurance. Mais quelque part, la délivrance de Dieu constitue pour Ézéchias, comme pour nous aujourd'hui, le plus beau témoignage à la gloire de Dieu. C'est une preuve incontestable dont nous disposons pour parler de la grâce de Dieu à ceux qui nous entourent. Et peut-être le point commun, c'est celui-là qu'on a avec Ézéchias. Si lui, il a frôlé la mort dans ce passage, nous, on a frôlé la mort éternelle. Car nous tous qui étions pécheurs et ennemis de Dieu, nous étions condamnés jusqu'à ce que le Christ nous délivre par sa mort sur la croix. Et nous sommes ici, nous qui avons pris cette scène, nous jouissons de cette vie nouvelle avec lui, de cette faveur imméritée qui nous a transformés et que nous ne voulons jamais oublier. Tout comme Ézéchias, notre témoignage ne repose pas sur ce qu'on a pu, peut-être les guérisons qu'on a pu avoir, même si c'est possible, mais notre témoignage repose essentiellement sur le secours de Dieu, sur la croix. L'Éternel était là pour venir me sauver. C'est ce que nous pouvons affirmer. Alors, comme on a pu le voir, conserver le souvenir des expériences passées a son importance. Comment vais-je m'y prendre, moi, aujourd'hui, pour l'inscrire et ne jamais oublier l'œuvre de Dieu dans ma vie? Alors, pour conclure, dans ce texte, on peut affirmer la vérité suivante. Le disciple est celui qui conserve en son âme et conscience cet attachement à Dieu, en dépit de toute situation et de l'issue finale. Et pour terminer, je vous laisserai juste cette parole, un des plus beaux encouragements qu'on trouve dans sa parole. Quant à toi, dit Dieu, ça se trouve dans Daniel 12, verset 13, quant à toi, dit Dieu, tiens jusqu'à la fin et tu entreras dans le repos. Puis à la fin des temps, tu te relèveras pour recevoir la part qui t'est échue. À lui soit la gloire. Amen. Père éternel, merci pour ta parole et ce que tu nous révèles. Une telle situation avec Ézéchias que nous avons si souvent espéré vivre, pour nous comme pour nos proches, peut-être cela ne s'est pas passé de la même manière. C'est vrai. Mais ce texte nous rappelle que tu es souverain. Et c'est cela que nous voulons comprendre, c'est cela que nous voulons proclamer. Tu es souverain dans nos vies, dans chaque détresse, dans chaque souffrance, toutes les fois où nous avons l'impression de tomber dans ce gouffre si immense, d'être si seul, tu es là. Et tu constitues le plus grand, le plus beau et le plus puissant des soutiens. Oui, nous pouvons affirmer aujourd'hui que tu étais là pour venir nous sauver et que tu seras là pour venir nous sauver et nous récupérer jusqu'à la fin, afin que nous puissions vivre cette éternité avec toi. Tu nous as fourni cette plus belle promesse de cet avenir glorieux avec toi. Que ton nom soit loué, que tu sois glorifié dans cette journée comme dans la semaine qui arrive, comme dans cette situation et ces circonstances tragiques que nous vivons avec cette pandémie qui, on ne sait pas où on va. Que ton nom soit glorifié et que ton règne vienne. Amen.